Merci de nous écouter sur France Inter, il est 19h. Et le journal c'est vous, Hélène Philippe. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. L'union au prix de la division, crise ouverte au PS après l'accord trouvé avec la France insoumise. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce qu'il quitte le parti. Le Conseil national de demain s'annonce houleux. L'Ukraine et toujours ses intenses bombardements à Mariupol où la Russie semble préparer une parade militaire autour de Kiev. Le long travail d'identification des victimes civiles a commencé. Nos envoyés spéciaux sont sur place. L'actualité, c'est encore la bataille des experts au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Les poules sont confinées depuis des mois à cause de la grippe aviaire, mais les étiquettes dans les rayons n'ont toujours pas changé. Et au quatrième top, ce sera la fin de l'horloge parlante. Le service existait encore, on imagine les yeux ronds des plus jeunes, mais il va s'arrêter dans quelques mois à presque 90 ans. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien cet accord hein, du OPS, quoi d'autre qui doit passer maintenant donc devant le bureau, vous le disiez, et le Conseil national du PS, on va se demander jusqu'à quel point ce sera pas du tout une partie de plaisir. Vous nous donnerez votre avis de vieux militants, de sympathisants, vous nous direz dans quel état vous êtes, dans quel camp, ceux qui disent « sans moi » ou ceux qui disent « bah sinon et quoi ?». En tout cas, une page du Parti Socialiste est en train de s'écrire et on en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. Il y a eu la claque du premier tour et donc maintenant la discorde autour de cet accord finalement conclu avec la France insoumise en vue des législatives. 70 circonscriptions réservées aux socialistes et un programme commun qui sera soumis au débat demain soir en Conseil national. Mais il fait déjà bondir en interne et des figures claquent la porte. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
L'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve annonce dans la Manche Libre qu'il quitte le parti.
Oui, déjà hier, l'ancien Premier ministre accusait les dirigeants socialistes d'avoir perdu leur boussole. Aujourd'hui, sans grande surprise, donc, il claque la porte d'un parti auquel il avait adhéré en 1987. Bernard Cazeneuve, qui ne peut se résoudre, explique-t-il, à une alliance avec la France insoumise. Une formation politique, dit-il, dont j'ai eu à subir la violence, l'outrance des propositions, les insultes aussi quand j'étais au gouvernement, évoquant ainsi l'affaire Rémi Fraisse, ce militant écologiste mort en 2014 lors d'une manifestation alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve poursuit ensuite sur le fond de l'accord, dénonçant l'hostilité ancienne de la France insoumise au projet européen. Bernard Cazeneuve, premier des éléphants à quitter le navire.
Et la colère aussi d'un certain nombre d'élus dans le nord de la France, notamment ancienne place forte socialiste Cécile Bideau.
Elle dit n'avoir rien en commun avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. La maire socialiste de Denain, Anne-Lise Dufour, se dit prête aujourd'hui à quitter le parti à cause de cet accord avec la France insoumise.
J'ai beaucoup de mal à me dire que ce parti qui est le mien depuis que j'ai 18 ans soit vendu pour si peu cher. Je me dis que c'est vraiment dommage de le laisser à une poignée de gens qui sont capables de signer n'importe quoi avec n'importe qui tant qu'on garde 3-4 sièges à l'Assemblée nationale. Pierre Mauroy disait « quand les dégoûtés sont partis, ne reste plus que les dégoûtants ».
Sur les terres de Pierre Mauroy, le Nord, il n'y a déjà depuis les précédentes élections législatives plus aucun député socialiste. L'autrefois puissante Fédération PS a perdu 90% de ses adhérents en 10 ans. L'ancienne première secrétaire fédérale était, elle, favorable à une alliance avec la France insoumise pour sauver les meubles, mais aujourd'hui, elle dénonce les termes de cet accord. Martine Filleul au micro de France Info.
Je suis très en colère de la manière dont ces négociations ont eu lieu. Elle a abouti à accorder des miettes, en quelque sorte, au Parti Socialiste. Je crains que nous n'aboutissions finalement qu'à une OPA de la France insoumise à la fois sur la gauche et sur les circonscriptions.
Sous le beffroi de la mairie de Lille, une voix se fait encore attendre sur cet accord qui divise OPS, celle de Martine Aubry.
Reportage Cécile Bideau. France Bleu Nord, s'opposer à un tel accord serait un contresens, pense d'ailleurs à l'inverse le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. On imagine le Conseil national de demain soir houleux. Il a tout de même fallu 2 jours et presque 2 nuits pour arriver à un texte commun qui comporte quelques différences notables avec ceux conclus avec les écologistes et les communistes. Compromis aux chausse-pieds et pour le moins alambiqué sur le respect des règles européennes notamment. Il est écrit dès
désobéir pour les insoumis, déroger de manière transitoire pour les autres, les socialistes. La nationalisation d'EDF qui est dans l'accord avec les communistes n'apparaît plus. En revanche, l'abrogation de la loi El Khomri, pourtant initiée par les socialistes, y est. Le service web de France Inter a traqué toutes ces nuances, le jeu des 7 différences entre les différents accords à lire sur franceinter.fr. Et qui sera le Premier ministre qui mènera la bataille des législatives? Qui remplacera Jean Castex? Le gouvernement est à la tâche et le temps des décisions individuelles n'est pas venu, disait ce midi le porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres.
Le calendrier est connu institutionnellement. Il y a l'investiture du président de la République pour son second mandat qui aura lieu ce samedi, conformément à ce qui a été annoncé par la présidence de la République. Et il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Gabriel Attal qui s'appuie donc sur cette date, 13 mai minuit, fin de mandat, pour justifier le fait qu'Emmanuel Macron prenne son temps pour choisir un nouveau Premier ministre. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
En réalité, il peut faire ce qu'il veut, cette date ne lui impose rien.
Ah non, rien du tout. La durée du mandat présidentiel n'a rien à voir avec le sort du gouvernement. Et d'ailleurs, pourquoi prendre pour référence ce 13 mai et pas le 7 par exemple, date de la cérémonie d'investiture du chef de l'État? En réalité, c'est Emmanuel Macron, vous l'avez dit, qui décide. Il sera investi donc ce samedi. Son second mandat commencera officiellement le samedi suivant, le 14. J'espère que vous suivez, Hélène. Date fixée par le Conseil constitutionnel. Et pour le reste, la démission de Jean Castex et de son gouvernement ne tient qu'à la coutume républicaine. On parle même de démission de courtoisie. Le président fait donc du rôle plaisir, non parce que la Constitution l'y oblige, mais parce qu'il y voit son intérêt. D'abord, attendre que la situation se décante à gauche, en espérant que des figures social-démocrates, Bernard Cazeneuve au hasard, finiront par le rejoindre. Ensuite, lancer le plus tard possible la campagne des législatives en espérant recréer l'effet de souffle largement retombé depuis le second tour de la présidentielle. Et pendant ce temps, Jean Castex, qui avait annoncé sur Inter qu'il démissionnerait quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron, bah lui, est suspendu au bon vouloir du chef.
Et cette perle rare de première ou premier ministre que cherche Emmanuel Macron, il faut qu'elle puisse mener cette planification écologique promise par le chef de l'État. La lutte contre le réchauffement climatique censée être l'une des priorités du prochain quinquennat. Le président recevait d'ailleurs cet après-midi à l'Élysée une dizaine d'experts du climat, chercheurs, climatologues ou économistes. Sandy Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Une manière de montrer que le climat est bien la priorité du moment.
Oui, Emmanuel Macron a reçu les experts climat pendant 2 heures. Parmi eux, beaucoup de contributeurs au rapport du GIEC, le groupe d'experts climat de l'ONU. Ils ont détaillé les conclusions très alarmistes au président Jean Jouzel, climatologue.
Il a pris beaucoup de notes sur les résultats précis du dernier rapport du GIEC et il y a quand même des choses à dire et redire. Et quelquefois, il faut dire 2 ou 3 fois les choses pour qu'elles rentrent, disons, de façon effective et de façon concrète. Maintenant, c'est l'action qui va compter, c'est très clair.
Le président a redit qu'il allait accélérer son action climatique, a parlé de la méthode, la planification écologique confiée au Premier ministre et non plus au seul ministère de l'Environnement. Une avancée pour Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat, l'organisme indépendant chargé d'évaluer la politique climatique du gouvernement.
Que la transition elle est remontée au niveau du Premier ministre, ça c'est vraiment très bien et c'est rassurant, en tout cas pour le moment. On est à l'heure actuelle pas encore sur la trajectoire vers la neutralité carbone. On a besoin d'accélérer le rythme de baisse en émissions et c'est ce que le prochain quinquennat devra mettre en place.
Et ces experts climat attendent maintenant le nom de ce futur Premier ministre qui sera pour la première fois en charge de planifier secteur par secteur la transition écologique de la France.
Sandy Dauphin et Georges Thaud en direct de l'Élysée. Il est aussi question d'environnement dans ce vote et ce bras de fer à Strasbourg. Les députés européens qui ont voté pour restreindre la pêche au chalut accusé de ravager les fonds des mers mais sans l'interdire dans les zones maritimes protégées, au grand dam des associations écologistes.
Et à 19h10, Hélène, tous les regards restent tournés vers Mariupol en Ukraine.
La ville sous un déluge de feu alors que le Kremlin dément pourtant tout assaut sur la Syrie où sont retranchés les résistants. Plus au nord, autour de la capitale, Kiev, une vingtaine de corps de civils ont encore été retrouvés. À Boutcha, c'est un très long travail d'identification qui commence, la morgue est saturée. Et pour la première fois hier, le parquet a organisé des prélèvements ADN sur les familles de disparus. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux Éric Audra et Mathilde Dehimy.
Valentina déplace sa chaise au soleil, mais elle tremble toujours de douleur. Elle a reçu un message du parquet lui demandant de venir faire un prélèvement ADN à la morgue.
Mon fils était un checkpoint. Il y avait beaucoup de soldats. Un obus est tombé exactement sur eux, ça l'a déchiqueté. Depuis, on le cherche pour pouvoir l'enterrer chez nous. Un mois est déjà passé et mon fils est ni mort ni vivant.
Ruslan a vu l'appel du parquet sur les réseaux sociaux. Son père n'est jamais arrivé à son travail.
On garde encore espoir. Je sens qu'il n'est pas mort. Car début mars, les soldats russes ont enlevé beaucoup de personnes, puis les ont emmenés en Biélorussie.
Devant la tente, des bénévoles relèvent avec soin les identités des familles. Andriy Tourbar est le procureur adjoint de Boutcha.
On espère que ça va vraiment faire avancer les enquêtes. Les gendarmes légistes français nous aident avec leur laboratoire qui permet de faire ces tests très vite, en seulement un ou deux jours.
Dans la région de Kiev, 280 corps restent à identifier.
Instituteur qui dit reportage de nos envoyés spéciaux Mathilde Dehimi et Eric Audra. Alors que les Européens ont donc décidé d'un sixième train de sanctions et surtout d'un embargo sur le pétrole russe, pas simple pour des pays qui en sont très dépendants comme la Hongrie. Elle aurait plus que 6 mois pour arrêter ses commandes, mais elle rejette tout de même la proposition ce soir. L'Allemagne, à l'inverse, s'est finalement laissée convaincre alors qu'elle s'est longtemps opposée à un tel embargo. Ludovic Piétenu est à Berlin.
Depuis les années 60, l'oléoduc le plus long du monde, Droujba, qui signifie « amitié » en russe, traverse plusieurs anciens satellites de l'Union soviétique pour terminer sa course juste après la frontière polonaise dans ce qui était l'ex-RDA. Le village est-allemand de Schwedt vit depuis toutes ces décennies grâce aux recettes fiscales abondantes de son énorme raffinerie. C'est là qu'arrivent les 12% restants importés de Russie, soit 12 millions de tonnes sur lesquelles Berlin n'a pas la main puisque depuis l'an dernier, cette raffinerie est majoritairement détenue par le géant énergétique russe Rosneft. Et comme cette raffinerie approvisionne Berlin et le Brandebourg en carburant et en fuel à hauteur de 95%, il pourrait y avoir du jour au lendemain des restrictions, une pénurie et donc des prix plus élevés qu'ils ne le sont déjà pendant au moins 6 mois, précise le ministre de l'économie, l'écologiste Robert Habeck. On ne peut pas garantir dans cette situation que les choses ne vont pas s'enliser, en particulier cette raffinerie de Schwedt qui doit s'arrêter, c'est notre défi. La seule solution qui s'offre au gouvernement fédéral, c'est de froisser la Russie en plaçant ses entreprises du secteur énergétique installés en Allemagne sous tutelle, voire même de les exproprier. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et l'actualité à l'étranger, alors que la Cour suprême aux États-Unis pourrait remettre en cause le droit à l'avortement, le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, rappelle aujourd'hui que c'est un droit qui sauve des vies.
La suite, c'est au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Hélène, la bataille des experts a commencé.
D'un côté, les experts judiciaires qui pointent un déficit de maintenance des voies pour expliquer le déraillement du train qui a fait 7 morts et plus de 400 blessés il y a presque 8 ans. Et de l'autre, les experts recrutés par la SNCF, eux, plaident un défaut dans le métal et assurent que l'accident était imprévisible. Mathilde Vincenot, vous suivez l'audience au tribunal d'Evry. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est un expert de la SNCF qui a témoigné en premier et il est accusé d'avoir voulu masquer la réalité.
Oui, il fait de grands gestes à la barre. Cet expert retraité a l'habitude des tribunaux. Il liste les accidents sur lesquels il a déjà travaillé, toutes ces fois où il avait raison quand les autres avaient tort. Par moments, il parle de lui à la troisième personne. Au sujet des experts judiciaires qu'il contredit, il prévient le tribunal. C'est du cinéma qu'ils vont vous exposer. Il s'époumonne. C'est une rupture brutale dans le métal qui a provoqué l'accident. Les avocats des victimes l'interrogent longuement. Pas d'erreur humaine, mais un problème d'acier. Comment pouvez-vous l'affirmer avec une telle certitude alors que vous n'avez jamais vu de cas similaire dans d'autres accidents ferroviaires, s'étonne Maître Ingouf. Maître Chemla, lui, relie les conversations qu'il a eues avec un cadre de la SNCF placé sur écoute. Monsieur, j'ai l'impression que votre mission, c'est de défendre la SNCF. Vous avez juré de dire la vérité et vous mentez effrontément. N'importe quoi, répond l'expert. Il s'énerve. Je suis un professionnel. Au fond de la salle, ses adversaires, les experts judiciaires, éclatent de rire.
Mathilde Vinceneux en direct du tribunal d'Evry. Après les agressions de plusieurs pompiers en marge des cortèges du 1er mai, de la prison ferme à Nîmes, 8 mois pour un homme qui s'en est pris à 2 sapeurs-pompiers, tandis qu'à Paris, le procès de la manifestante qui a frappé un pompier en train d'éteindre un feu a été renvoyé. On parlait hier du nombre record de volailles abattues à cause de la grippe aviaire, 16 millions en France. L'épizootie a une autre conséquence, c'est le confinement des poules et des poulets. Et donc, un petit problème sur les étiquettes qui, elles, n'ont pas changé. Sur les œufs, par exemple, la mention « élevée en plein air » n'a pas été modifiée et les consommateurs ne sont pas toujours au courant. C'est le reportage de Maria Melkurdi.
Geneviève fait ses courses dans un supermarché du sud de Paris. Au rayon des œufs, elle est très attentive aux étiquettes, sa priorité.
En général, les œufs de poules en plein air, élevés en plein air.
Et quand on lui précise que les poules pondeuses ne peuvent pas être élevées en plein air depuis novembre à cause de la grippe aviaire et du confinement imposé aux volailles.
Non, je n'étais pas au courant. Mais, et donc les poules restent à l'intérieur alors.
Elles sont confinées.
Enfin, elles sont confinées, mais elles ne sont pas non plus dans les cages. Évidemment, si elles restent confinées, c'est un peu ennuyeux. Enfin, je préfère toujours consommer ce type d'œufs.
Pascal Sachet, éleveur de poulets bio à Sèvremont en Vendée, est lui aussi très ennuyé. La réglementation européenne permet de maintenir la mention élevée en plein air pendant 4 mois quand le confinement est imposé pour raisons sanitaires, mais le délai est largement dépassé.
On trouve ça très gênant que le consommateur soit trompé. Sur les étiquettes, ça devrait être marqué que ce ne sont pas des animaux élevés en plein air.
Qu'en est-il de la qualité des produits? Les autres règles de l'élevage bio ont pu être respectées, assure Pascal Sachot, qui a vendu toutes ses volailles.
Le poulet industriel, il vient en 42 jours. Nous, c'est plutôt 84 jours. Donc on est sur des souches à croissance beaucoup plus lente. Je ne pense pas qu'au niveau qualité gustative, il y a un gros écart. Ça s'est bien passé.
Le président de l'interprofession des œufs, Philippe Juvin, rassure aussi sur la qualité des produits.
Globalement, c'est des œufs qui sont d'excellente qualité. Hein.
Ça explique donc pourquoi les prix non plus n'ont pas changé sur les étiquettes.
L'Institut national de l'origine et de la qualité en charge de ces étiquettes a prévu de communiquer d'ici à la fin de la semaine. Branle-bas de combat dans les mairies et les préfectures face au délai impossible pour obtenir une carte d'identité ou un passeport. Rattrapage de la crise sanitaire. Le gouvernement promet de débloquer 50 000 créneaux supplémentaires par semaine d'ici à la fin du mois. Pour faciliter le tri entre les cas les plus urgents, une dérogation permettra de prioriser les demandes. On saura ce soir en football qui affrontera Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit Manchester City ce soir. Et au fait, quelle heure est-il?
Bienvenue sur l'horloge parlante d'Orange. Après le bip, l'appel coûtera 1,50€.
Bonsoir Cécilia Arbonin.
Bonsoir Hélène.
Est-ce que vous appeliez encore quelques fois cette horloge parlante?
Pas depuis 1986 et mon baccalauréat A2. Je me préparais pour ne pas rater la première épreuve de philo et donc j'ai téléphoné à cette dame sur le téléphone fixe couleur kaki de notre salon. J'ignore à l'époque que la voix qui me répond est une invention française de 1933. C'est l'horloge parlante. C'est la création d'Ernest Esclangon. Il est astronome, physicien, mathématicien et il a adapté la technique du film parlant pour réaliser la distribution parlée en continu de l'heure. Et ça donne ça au départ.
19h58. 40 secondes.
Le succès est immédiat. Le premier jour, 140 000 appels. Et puis au début des années 90, une petite révolution. Un duo homme-femme alterne au bout du fil.
Vendredi 22 mai 1992. Au quatrième top, il sera 8h47.
Aujourd'hui, le laboratoire Système Référence Temps-Espace de l'Observatoire de Paris continue sa course effrénée contre le temps pour aller vers l'exactitude. Elle est aujourd'hui de l'ordre de 10 millisecondes, 16 chiffres après la virgule. C'est trop loin pour moi, ces calculs savants. Je pense aux adolescents qui passent le baccalauréat avec leur smartphone cousu dans la poche de leur jean. Ça donne l'heure aussi et ça, c'est compris dans le forfait.
Et voilà, l'horloge parlante dont l'heure a sonné. Le service va officiellement s'arrêter le 1er juillet prochain au quatrième top ou à peu près. Il sera 19h20 et je vous rends l'antenne, Fabienne.
Oh, mais faites-le bien. 19h, 19 minutes, 50 secondes.
Ah, là, tu es bien.
Allez, à demain, Hélène, bien sûr. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. On va parler du PS qui joue sa survie ou vient de signer son arrêt de mort. Hein. C'est à vous de voir et à vous de nous le dire. En tout cas, au 01 45 24 7000, on jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, attention aux orages encore ce soir dans l'Est.
Oui, les conditions vont rester instables entre la Lorraine, l'Alsace, Auvergne-Rhône-Alpes et les Alpes du Sud jusqu'en première partie de nuit. Le risque d'orage va s'effacer durant la nuit, mais les averses, elles, vont persister jusqu'à demain le long des frontières de l'Est. La pluie est aussi au programme demain sur la Corse, avec même de la pluie localement soutenue l'après-midi. Entre les Pyrénées, l'arrière-pays provençal et la Lorraine jusqu'aux Ardennes, la journée sera partagée avec quelques éclaircies, mais aussi quelques averses. Ces averses pourront localement tourner à l'orage, en particulier sur la Bourgogne. Et puis sur les régions de l'Ouest, les éclaircies seront plus franches. Le soleil s'imposera d'ailleurs assez largement entre les Flandres, la Bretagne et le bassin aquitain. Mais il faudra parfois attendre la dissipation des grisailles matinales. Le Roussillon et les Bouches-du-Rhône passeront aussi une journée sous le soleil, alors que quelques averses pourront déborder sur l'Hérault.
Et des températures encore de saison, Sébastien.
Oui, avant de prendre des saveurs de plus en plus estivales à partir de la fin de semaine, les maximales seront encore voisines des normales demain, voire même parfois un peu fraîches sous les averses de l'Est. Demain après-midi, il fera 16 degrés à Grenoble, 17 degrés à Strasbourg et Besançon, 18 degrés pour Caen, Nevers et La Rochelle, 19 degrés à Quimper, Lille et à Bourges. On ira jusqu'à 20 degrés à Paris et à Ajaccio, 21 degrés pour Nantes, Nîmes et Agen, 22 degrés à Perpignan et le maximum pour Vitrolles avec 24 degrés.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup Sébastien.